Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Un grand pélican brun, avec un costume à mille raies, s'est rapproché des dieux sraquins avec un fin sourire. Il a sorti sa montre et tâté le pouls du malheureux. Après une grimace pessimiste à l'attention des badauds, le méticuleux a attendu encore un peu. Il a écouté le cœur du failli avec sa longue oreille. Il s'est redressé avec lenteur et découvert devant le corps. « Pauvre petite créature !» il a dit en se signant. « Le bon Dieu l'a pris. S'il le veut, il peut en faire un ange. » Aussitôt après, avec le déploiement d'un télescope, il a allongé son bras hors de sa manche. Il tenait un crayon droit au bout du pouce. En prenant du recul pour accomplir ce geste à la précision infaillible, il a miré en direction des dieux. Son visage glabre s'est rehaussé d'une dose de mépris. « 5 pieds et à peine 1 pouce !» il a diagnostiqué. « Ce chrétien-là est gros comme un chat d'aiguille, mais je peux sûr raccourcir un bon habit en bois de chêne qui sera fidèle à ses mesures. » L'homme à la tête de pélican avait sorti son calepin et il prenait des notes. Ah, c'était ce salaud de Narcisse Black O'Connor, l'Undertaker des pompes funèbres. Pour lors, Edius a rouvert un œil. Ses mâchoires ont fait « yak, yak ». Il avait l'air de revenir d'un grand mal. « Qui tu veux dire, Narcisse ?» il a demandé. « Que je vais crever pour te faire plaisir ? Merci beaucoup. Va-t'en, bétail, tu m'encourages !» Il s'est élevé sur ses jambes en moins que rien. Pour le coup, ça allait mieux. Il a marmonné que c'était trop tôt pour le transporter au paradis ou à l'autre place où il n'y a pas d'hiver. Il a reçu comme une boule d'affection Azeline qui se jetait dans ses bras. La petite s'est mise à éclater en sanglots. « Oh, Daddy, j'ai eu si peur que t'allais passer !»« Penses-tu, personne ne me découragera de respirer, mon bébé, pas tant que brille le soleil du bon Dieu !» Dans le potager, il a cueilli une fleur pour sa boutonnière. Il a recoiffé son chapeau qu'avait roulé dans la poussière, a redressé son nœud de cravate, parti à Zach et tendu le poing en l'air pour aider Azeline à remonter sur la wagon. Puis « Goodbye, Narcisse Black, et mille remerciements !» La roue voilée, mais la santé prospère et yip et yap, il s'est reparti en cahotant. C'est ça qu'on appelle un vrai cachin. Quelqu'un pour pleurer ensemble ou s'amuser avec. Et derrière un homme tel que lui, si proche de la simplicité de vivre, on a tous ri. La rue entière qui s'éclatait. Une gaieté formidable. Tinoir s'est arrêté de lui-même devant une maison rose située au bout du village. De chaque côté d'une allée centrale, un délicieux jardinet, étouffé par des buissons d'azalées et de rhododendrons, se donnait des airs mystérieux de cabinets de verdure. Azeline a sauté de la hacque, poussé la barrière et s'est retournée pour envoyer un bec d'affection vers son père. « T'attarde pas trop pour tes cousses, Dad. Ça me fait du mal, juste à jongler, qu'il pourrait arriver quelque chose de mauvais sur ton chemin. » « Oh, tracasse-toi pas de moi, mademoiselle, je fais seulement ce que j'ai à faire, a promis le vieux bougre, et je repasse te prendre, sitôt j'ai fini mon micmac. » « Surtout, te laisse pas entraîner à boire du on broude avec ces soulards, tu connais pas. » « Oh, je serais méfié comme un indien, Aïswir, et prudent avec le fond de mon verre. » Sur le point de partir, adieu mignonne, il s'est ravisé à cause d'une idée riante. « Oh, pis ouais, bébé !» il a fait, en regardant sa fille avec un sourire sans cédant. « Toi, de ton côté, surtout, oublie pas de dire à tante Nadée au sujet du piano. Une leçon par semaine, si c'est nécessaire. » Je pense la difficulté infernale du solfège aidera ma petite poule sauvage à pas avoir le temps de faire visiter ses altières par un imbécile comme voici Smith. Il a fait tourner son wagon à un grand arc de cercle et a rebroussé le chemin du bourg. Chemin trottant, il s'a torchonné son front qui coulait. Il y avait de quoi se foutre en nage, rien qu'à jongler après tout le shopping qui l'attendait. Mais les projets bouillaient clairs dans sa caboche. Et Dius Raquin savait par où commencer sa tournée. Après s'être bien époussiéré pour pas salir, il est entré d'abord chez Alphée Fontelieu, perruquier parisien et artiste capillaire. Ce dernier, son opulente chevelure partagée au milieu par une raie franche comme un coup de sabre, était occupé à superviser le travail plus subalterne de cet garçon coiffeur officiant sous ses directives. De peur de déranger dans son sacerdoce ce demi-dieu du fer à friser et des ciseaux sculpteurs, le vieux bougre a cherché des yeux un coin où se caser. Il s'est avisé de la présence de trois gars fignoleux de leur vêture, des Anglais, pour le moins, tous culs à manche dans des culottes de drap qui attendaient leur tour de coiffure. Bien que ces beaux messieurs en chemise à midonnée eussent des misses intérieures des plus intimidantes, Edius s'a posé sur leur banc. Quand même, dans ses habits de campagne, il n'avait pas exactement l'air de leur compagnie. Il a tout fait pour paraître de leur ressemblance. Il a croisé ses jambes devant lui comme un quelqu'un qui prend ses habitudes, puis avec une expression bien concentrée, son chapeau à la main, il a patienté après d'eux. En bon cajun du bord de l'eau, il n'avait pas trop d'argent à dépenser sur le frivole et l'inutile, mais d'être accepté par ces Américains lui causait une joie unique. Dans sa langue de berceau, sans battre une paupière ou craquer un sourire, il se répétait en lui-même « Merde, bon vieux, je sais pas si tu te rends compte la chance que tu tiens. T'es embanché avec des gros richards comme des mules à la même mangeoire. C'est le même oxygène que ces trois-là que tu respires. Oh, à cette heure, tu peux mourir content d'abord. » Attendre, c'était pas cher. Il se trouvait dans une grande boutique peinturée en blanc où l'odeur de parfum était si sucrée qu'on se mettait malgré soi à faire du miel. De l'autre côté de la travée, tassé sur une chaise, se trouvait un barbeux qui ne disait rien. Juste boucanait la place en tirant sur sa pipe. Il était face à l'entrée et surveillait la rue. C'était un grand filou, plutôt haillonné, la tête prise sous une casquette de marine, sûrement pas un récolteur. À force de sécheresse au fond de sa gorge, Popraquin s'était mis à toussailler. Tout en dispensant ses épilations, ses pommades, ses calamistres et ses fumigations à une clientèle subjuguée par sa compétence, Alphée Fontelieu, croyant flairer en Raquin le futur acquéreur d'un postiche, s'était vivement porté au-devant de la clientèle. « En quoi puis-je vous être agréable, cher monsieur ?»«
Au moins, voilà ce que je voudrais, » dit le vieux à Bitaco.
Il s'était levé, il avait approché sa bouche puante de l'oreille du friseur et parlait bas. Que toute la paroisse n'entende pas son affaire. C'est pour acheter une teinture, murmura-t-il. Je veux un produit pour changer la couleur des cheveux.
Les yeux du pomadin déchiffrèrent avec incrédulité la calvitie du vieux bougre. « Vous n'agissez pas pour vous-même, j'imagine, » constata-t-il, dépité. « Pas exactement, » admit Edius. Les trois rednecks à fistolets de belles chemises se tournèrent de son côté et le dévisagèrent avec ensemble. Il aurait voulu rentrer sous terre. Alphée Fontelieu, quant à lui, dédaignant ce chauve de peu d'importance, avait pris le parti de consacrer tous ses soins à son prochain client. Il ouvrit les plis d'une serviette avec un geste de torero et enjoignit au fumeur de pipe de gagner le moelleux d'un fauteuil capitonné. « Si monsieur veut bien se donner la peine ?» L'homme, qui paraissait fourbu, se dressa. Bien qu'il fût bossu derrière les épaules, il était grand et imposait le respect. Il portait à sa ceinture une arme apparente. Sans manifester le moindre intérêt pour ce qui se tramait autour de lui, il se laissa tomber au fond du siège tournant. Il développa ses jambes jusqu'au mur, s'assura dans la glace qu'il pouvait surveiller la porte d'entrée et cala longuement sa bosse contre le dossier rembourré, encorné de deux tiges réglables destinées à lui soutenir la tête. Le bonhomme Raquin était resté planté comme un clou. Il commençait à devenir piment d'avoir été oublié de la sorte. Convaincu que d'autres seraient tombés en chamaille pour moins que ça, il s'avança derrière le perruquier et avec trois doigts réunis, lui picota sur l'épaule. « Au sujet de cette teinture, je souhaite que vous n'ayez pas oublié ma question, monsieur. C'est comme ça. » « Pouvez-vous m'en dire davantage sur la couleur que vous avez choisie ?» demanda brièvement le coiffeur. Il prétendait s'affairer. Il faisait des gestes inattendus et coupait l'air en quatre. « Ben, Moon, je voudrais du sombre, » dit Raquin. « Du noir, bien jet, avec quelques reflets, si vous préférez. » Après avoir rectifié une patte qui gauchissait sous une pommette voisine, Alphée Fontelieu noua la serviette autour du cou de l'étranger. Ce dernier retira lui-même sa casquette. En découvrant les rides de son front, on devinait quelqu'un qui avait beaucoup flotté, bu quelques filets dans sa vie et ferroyé pas mal. Le barbier reporta furtivement son attention sur Edius. « Very well, monsieur, » roucoula-t-il, en opérant avec féminité une bascule du bassin, « nous voulons teindre une chevelure en sombre. Mais de quel substrat parlons-nous ? Cheveux longs, cheveux gras, cheveux maigres ?» Avec des mots ficelés pareils, Edius était encore plus perdu. Bon, « je ne vous parle pourtant pas en chinois, » feignit de s'étonner Alphée Fontelieu, « juste en français du continent. » Là, le vieux tigre a bien vu qu'on se foutait de lui devant le parti de redneck qui attendait son tour sur la banquette. Il s'est dit en soi-même, « Ah, mon malin, toi, tu tires trop sur la peau du chaoui. » Il a fait la gueule douce au jobard, puis il a dit, avec une grande insinuation dans le regard, « Je connais pas la belle langue parisienne, vu que j'ai juste été élevé dans un grand carreau de savane et de rivière rempli de bétail à fourrure et de milliers de gibiers. Mais si, avec votre savoir, vous cherchez à matiner, c'est ennuyant, monsieur, bien sûr c'est ennuyant. Alors, je ferai rien pour vous donner l'occasion de me faire encore plus de misère. Et j'irai chercher ce que je veux ailleurs. Peut-être du cirage fera l'affaire. » Et peut-être aussi que je reviendrai avec toi pouilleux comme moi, vous le faire partager en cataplasme sur votre jolie gueule. C'est mon idée qu'ainsi vous comprendriez mieux ce que les quatre gens disent.
Et ta maman s'en met au monde, quand il brasse. t'as comme un coin de bon cœur.
En liberté, Denis Flagel.
Retour au roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Alphée a senti que le vieux Bougue était choué pour de bon. Il a retiré sa bouilloire hors du feu. La bravoure n'était pas son territoire. Il a dit comme ça en ciseautant dans les airs. Le mieux, c'est encore que vous m'ameniez la personne et que vous me laissiez faire mon métier. La personne ne peut pas venir, a avoué Popraquin. Elle est souffrante. Il s'était tu. Ses oreilles étaient rouges. Il sentait bien qu'il s'empêtrait. Mettant à profit cette accalmie, Alphée Fontelieu arrondit un visage brusque autour du siège. Avec ses afféteries dans le poignet, il s'en fut quérir sa mousse à raser. Popraquin laissa voyager son regard sur la glace. Il espérait trouver quelque réconfort du côté du client. Les yeux mi-clos, ce dernier semblait goûter l'extase d'une sorte de mort. Edius jeta un regard affolé sur le coiffeur qui revenait en chassant de biais avec l'axe de son corps. « Eh bien !» interrogea le Figaro. Pressé d'en finir. La personne est-elle rousse? A-t-elle des reflets à plumes du genre « choc, elle rouge » ou bien sommes-nous sur du gris tout simplement, du gris qui ne veut pas dire son âge? C'est quelqu'un qui a une grande clarté dans ses cheveux, bredouilla Edius de plus en plus mal à l'aise. Moi, je dirais qu'il est blond. Popraquin vit les yeux du marin se river aux siens. Le coiffeur des élites trempa son blaireau dans la crème à raser et commença à en recouvrir les joues du bossu. Très à son affaire, il tourna soudain son visage du côté des lumières. « Virgine, gentil garçon perdu, lança-t-il à l'adresse de son plus jeune commis, emmenez monsieur à la caisse. En route, faites-lui donner un flacon de nuit mexicaine. » Pour couper court à l'entretien, le divin barbier leva les yeux au ciel. Dès qu'il eut secoué la présence d'Edius, il parut devenir plus aérien. Avec quelque chose qui ressemblait de près à un entrechat, il glissa le long de la coudoire du fauteuil et, sans renoncer au génie, entreprit de raser son client avec dextérité. Lorsqu'un gargouillement d'estomac déchira ses entrailles, il prit l'air sincèrement contrarieux. C'est nerveux chez moi, minauda-t-il en confidence. Je me noue, youp, et c'est comme ça. Au fil de la lame, il exécuta trois magistraux raclements de coupe-choux. En position de revers, sur une simple rotation du poignet, il procéda à un arrêt sur le menton. Débarrassé de toute pesanteur, il commençait à tresser des couronnes à la gloire des rasoirs de Solingen quand la flatulence reprit à l'improviste son concert d'orgue lisse. Embouteillée à l'entrée de l'œsophage, elle flûta un staccato de notes perlées, puis chuinta en direction du duodénum. À l'écoute de ce météorisme nomade, Alphée s'écria « De l'air, rien que de l'air, je suis ballonné, c'est ce foutu cutéreux qui m'a mis à l'envers !» Il ne termina pas sa phrase, n'eut pas l'occasion de faire davantage de mine. Un revolver au travers de la serviette appuyait sa gueule contre la paroi de son estomac. « Il te reste 2 minutes pour me raser sans me couper !» annonça Palestine Northwood. Edius avait traversé la rue poussé par la soif. Son avaloir était séché par toutes les manigances qu'il avait dû déployer. Mais enfin, il était assez fier. Il serrait comme résultat de sa victoire son flacon de teinture au fond de sa poche, et ça le revigorait. Il est entré au salon, chez Archil. Il s'est assis à la barre. Il a demandé au bougre en arrière du comptoir, il a tapé du plat de sa main et il a dit « Je voudrais 6 bières !» Le serveur a pensé qu'Edius était déjà saucé. Il a ri, pas méchamment, il a proposé « Peut-être qu'une seule bière unique pour un début, ce serait moins radical. »« Tonnerre de Dieu, c'est 6 bières que je veux !» démordait pas Edius. « 6 grandes fraides pour être à la hauteur de ma soif !» Ce coup-là, le serveur a cru que le vieux avait pas toute sa boule. « Pauvre vous !» il a dit doucement. « Je veux surtout pas déranger vos habitudes !» Il est allé tirer ses 6 bières en se fabriquant un compte que, malheureusement, chaque paroisse rurale a ses estrompiers, ses idiots, ses trembleurs, et même aussi ses bègues. Puis justement, voici Smith est rentré à son tour au salon, fringant dans son 3 pièces gilet. Le matou d'Azeline s'est installé devant une table. « Bartender !» il a crié. « Bottle of Bourbon !» Le grand pandard bredouillait beaucoup ses mots, surtout quand il était nerveux ou à l'étrange de son monde. Il a répété « Bartender !» Can you hear me?
Come in right up, sir.
Le serveur répond. Il apparaît au-dessus du comptoir. Vite, il abandonne les bières du vieux débardé et il apporte la bouteille de bourbon à Voici. Il se croit en face d'un Américain, l'imbécile, d'un Yankee bègue, mais d'un Yankee quand même, il sert le gentleman.
God damn!
Voici Smith allume un gros cigare cubain. Enrubé de fumée bleue, il roule des yeux courroucés et boit son bourbon d'un coup comme un vrai coup rouge. Il s'est laissé pousser les favoris. L'autre lui reverse un filet. Le gaspillard l'avale aussitôt et ainsi de suite à chaque verre. Il godame un juron en anglais. Edius, en découvrant le spectacle de ce couillon qui fait semblant de se prendre pour un autre qu'il n'est pas, commence à devenir chaud. Lui qui a toujours refusé de devenir une partie d'Américain ne comprend pas qu'on puisse agir comme si on appartenait à un autre pays qu'à celui de ses vasières. Il reste un moment à sécher sur place dans son linge, puis enragé d'avoir si soif, se dit « Mais qui j'ai fait pour le bon Dieu ?» « Moi, seigneur, nom d'un sac !» Il lâche la patate. Il fait « hum, hum, hum !» dans sa barbe. Il voit toujours pas venir les bières. Il dit au serveur « Maudit, tu crois que j'ai le temps ?» Déjà, il paye son compte. Il se lève pour s'en aller. Le barman met vite 6 bières en face de lui. Popraquin les boit l'une après l'autre. Il les voit même pas passer dans sa gargane. Entre 3 et 4, il prend un peu d'air, il crache la mousse, il dit au bartender « Oh, mais je vais pas me laisser sécher comme un vieux cornichon de navet au fond d'une jarre !» Il finit 4, 5 et 6. « Donne-m'en 6 autres !» il dit.
Je crois bien que je vais en avoir besoin pour ce qui va suivre. »
Comme un vaillant batailleur, il relève ses manches sur ses bras et s'avance en direction de Voici Smith. En reconnaissant son presque beau-père, le grand Loafer se trouble de toute sa hauteur. Son alouette part à 100 tours dans sa bouche. Il bégaye. « J'espère que vous n'êtes pas venu fâché parce que, vous voyez, je travaille ma langue anglaise. »
Le vieux bougre s'épanouit. « Mais ça, pristi, mais ça, c'est plus fort qu'un Hercule. Qu'au faire, je serai fâché. »
Il prend l'air aussi vert qu'une petite feuille de printemps. Il dit aimablement,
« Oh, mais là, voici la Tima. C'est, on n'a jamais eu de héros ici, à Bayoun et Piqué, des bons à rien qui s'achetaient un drink, ouais, mais pas de garçon éduqué en langue anglaise. »
« Je me trouvais un job dans une banque et justement, je buvais un filet de whisky avant de venir demain faire chez vous ma grande demande. »
« Ce sera pas la peine de te déranger jusqu'à mon habitation, » dit Edius. « Nous autres, dans le vieux pays chauvage, on préfère que nos filles marient une catégorie de brave monde qu'a toujours parlé le français de la Louisiane.
« Mais il faut comprendre, non craquin. Je voulais practice un peu de l'anglais juste avant de partir à la Nouvelle-Orléans avec Azeline. »
Naturellement, mais mon Edius Raquin, je marierai jamais un caran croc noir avec une voix farouche. »
Pendant que les deux ferraillent, le bartender avait porté 6 autres bières. Il les avait mises sur la table. Ça fait Pop Raquin a bu 7, 8 et 9. Il s'est posé bien d'aplomb sur ses mollets. Il a pris une goulée d'air, il a craché la mousse, il a élevé ses poings, il les a mis en position pour bombarder la margoule du prétendu de sa fille. Il lui a marché jusque sous le nez et il a dit « Je voudrais te demander une autre question, garçon. »«
Oui, s'il vous plaît. »
« Combien de vieux cajuns comme moi crois-tu que ça prendrait pour battre un grand Américain comme toi ?»
Voici Smith savait bien sûr pas qui répondre. Le vieux Boug s'adressait sur ses ergots, il sourissait tout drôle et il a dit
« Oh, ça prendrait 13 cajuns pour battre un courouche comme toi, 12 pour le secouer de l'arbre et 1 pour lui casser le fond du cul à coups de pied après qu'il tombe par terre. »
Il a envoyé sa main dans la figure du rougeâtre. Il a tourné autour de lui si vitement qu'il a eu le temps de lui mettre en plus son pied en arrière. Et il a dit avec une joie sauvage « Et si ça part pas une bataille après ce que je viens de faire, je mange mon chapeau. »
Il a bombardé une bûchée fantastique sur la mâchoire de Voici Smith. Après, il s'arrêtait plus d'assauter son adversaire. Un patcharak ici, un patcharak là, un veux-tu courir dans les bas du dos, une dandine dans les côtes, 2 claqués sur sa face de navet et pour faire bonne mesure, une dernière ramasse sur le nez.
La chair a éclaté comme une cerise. L'Américain est tombé sur le parquet. Pop Raquin lui a botté le tchu. Ça fait, après la teinture, c'était une deuxième victoire pour Edius. Il s'est frotté ses poings qui étaient graffités de petites coulures de sang et il a marmonné « Dieu bon ! Rien m'aurait tenté pour faire une pêchée, mais un fou imbécile pareil, il fallait que je lui fende son biscuit. » Après un moment, il s'est tracassé de savoir si l'ouvrage était bien fait. Il s'est approché de sa victime, il lui a recollé une poque sur l'oreille. Puis, certain que Voici Smith était endormi, en fafade pour 10 minutes encore, il a dit avec une subtile pupillation « Le bon monde va au paradis. » Il a bu sérieusement 10, 11, 12, il a craché la mousse et il a demandé son compte. À cette occasion-là, le bossu est entré. Il a mis un pied au salon. Il s'est accoudé au bar. Il a incliné la tête de côté. Et Dieu s'est trouvé qu'il avait des narines de jade.
Il a détaillé du regard la capote de marine qui lui battait les bottes. Il a remarqué les deux boutons dorés qui manquaient sur les épaulettes. Il a flairé le goût de la forêt sur ses épaules et l'odeur du feu de bois sur ses mains calleuses. Le vieux Bougue a dit « J'ai eu une idée comme ça, monsieur. Vous avez beaucoup voyagé. Et j'ai senti, j'ai compris à votre sujet plus que je ne saurais dire. » Palestine Northwood a déchiffré le visage du maigre chien avec des yeux creux comme des songes. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.